Mes élèves ont rencontré Rebecca Ligieri, alias Emmanuel Bayamak Tam, autrice d'Il est des hommes qui se perdront toujours, dans le cadre du prix littéraire de la région. Ce jour-là, j'étais malade. Mes élèves ont donc accueilli tout seuls Rebecca Ligieri. Ce que vous allez entendre est leur travail. Est-ce que vous avez voulu faire passer un message dans votre livre? Et si oui, lequel?
Alors, moi, je n'écris pas vraiment de livre à message ou de roman à thèse. En tout cas, je ne veux pas que le message soit lisse, limpide et univoque. Je préfère qu'il y ait un message un peu contradictoire et un peu ambigu. Et en tout cas, mon point de départ, ça n'est jamais « je vais écrire un roman pour faire passer un message ». Mais bien évidemment qu'il y a des messages, et bien évidemment qu'il y a une charge satirique, militante dans ce que j'écris, même si ça n'est pas mon objectif premier. Il y a une forme de dénonciation, évidemment de la maltraitance, mais aussi de la violence symbolique telle qu'elle s'exerce, parfois à l'école. Donc, sans que ce soit premier dans mon désir d'écrire, bien évidemment que j'assigne au roman une fonction un peu politique, un peu militante. Voilà, c'est pas premier. C'est dans mon désir d'écrire au départ, c'était pas ça. Je pense que j'étais plutôt dans une sorte d'état d'esprit poétique. Mais de fait, dénoncer des dysfonctionnements ou pointer des choses qui vont pas, ça fait, me semble-t-il, partie du rôle des autrices et des auteurs.
Pour vous, il y a toujours un message dans les fictions?
Non. Ou non, je pense pas. Alors après, tout est possible, hein. Il y a des degrés divers de charge critique et satirique dans les romans, mais il n'y en a pas toujours. Non.
Pourquoi avoir utilisé un langage aussi cru?
Qu'est-ce que tu appelles un langage cru? Langage ou... quand je fais parler des personnages, par exemple? Alors, quand je fais parler des personnages, je m'astreins à une forme de réalisme et de vraisemblance, en particulier quand je fais parler des personnages jeunes. Ils vont parler parfois avec la crudité avec un langage qui n'est pas forcément très académique. Bon, je ne sais pas si tu parlais seulement des dialogues. Après, moi, j'ai l'impression d'écrire dans une langue qui n'est pas si crue ni si... Dans les dialogues où je m'astreins à une forme, je répète, de réalisme. Mes phrases, par ailleurs, je ne suis pas sûre qu'elles soient si crues. Ou alors, il faudrait préciser votre pensée.
Il y a des mots qui sont durs quand Karel raconte à son frère, son incident.
Ah oui, alors ça, on est bien d'accord, c'est dans les dialogues. Oui.
Dans ses pensées.
Oui, on est dans ses pensées. Oui, c'est vrai. Alors, la même chose, hein, vraiment, il y a cette idée de... Même si, je pénètre le psychisme d'un garçon adolescent, et bien évidemment, c'est ma langue, c'est ma façon de parler aussi à moi, mais j'essaie toujours de métisser un peu la langue. C'est-à-dire que j'aime bien qu'il y ait à la fois des choses très soutenues, très acrobatiques, très sophistiquées, parfois même des références, effectivement, à Artaud ou à Nerval, et puis à côté de ça, effectivement, métisser et hybrider ma langue avec des tournures plus relâchées, plus argotiques, plus crues. C'est une de mes ambitions, finalement, c'est d'écrire des livres qui soient un peu impurs, un peu hybrides, un peu métissés, avec des registres de langue qui parfois entrent en collision et provoquent peut-être, ou j'espère en tout cas, des effets sur le lecteur.
Lecture d'un extrait d'Il est des hommes qui se perdront toujours, de Rebecca Ligieri. Ayam, c'est autre chose. Ayam, c'est ma vie. Il a raison. Ayam, c'est sa vie. C'est la mienne. Face à Gabriel l'autre soir, j'aurais dû réciter « Née sous la même étoile ». Comme Moande, je la connais par cœur, vu qu'elle parle de nous et des nôtres. Pourquoi chez moi le rêve est évincé par une réalité glacée? Et lui a droit à des études poussées.
La vie est belle, le destin s'en écarte. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le verso lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile.
Si je racontais à Moande que j'ai tué Gabriel parce que nous n'étions pas nés sous la même étoile, elle et moi, je ne doute pas qu'il comprendrait. Mais est-ce la seule raison? Ne l'ai-je pas plutôt tué parce que je tiens de mon père le désir de détruire? Malgré moi, les mots jaillissent soudain de ma bouche, et face à mon petit frère stupéfait, je raconte l'irracontable, la conversation fantasque de Gabriel, son cul, son nez, son rire, son charme, ma vie avec elle, telle que je l'ai soudainement et brièvement rêvée avant de retomber dans ma réalité glacée. Je lui parle de mon désir irrépressible d'en découdre avec le monde entier et de la malchance qui a voulu que cette pauvre fille soit là. Putain, Mohand, je l'ai défoncé. Je peux même pas te dire pourquoi. Je sais même plus comment c'est arrivé exactement. J'ai cogné. Elle est tombée de tout son long et elle s'est fracassée le crâne contre le trottoir. T'aurais entendu le bruit que ça a fait. T'es sûr qu'elle est morte ? Elle avait l'air de l'être. Y a rien dans le journal ? Non, ni aux infos. Mais ça fait que 2 jours. Peut-être que les flics ont encore rien dit. Peut-être qu'il y aura un article demain. Ou alors, c'est juste qu'elle n'est pas morte, qu'elle va très bien et qu'elle se souvient de rien. Tu crois que c'est possible ? Ben ouais, elle s'assomme en tombant, elle fait 24 heures de coma et quand elle se réveille, hop, elle a tout oublié. Affaire classée. Je ris, mais je donnerais un bras pour qu'en ce moment même, Gabriel soit en train de siroter un mojito en se demandant ce qu'elle a bien pu faire pour terminer le crâne ouvert sur un trottoir. Je la visualise parfaitement en terrasse d'un bar du 8e arrondissement, en train de palper son pansement d'un air incrédule et de fouiller sa mémoire à la recherche d'un souvenir éclairant. Et qui sait, peut-être la croiserai-je un de ces jours sans qu'elle me reconnaisse. Tout au plus une vague impression de déjà-vu. Le temps qu'elle se retourne sur moi, j'aurais fui. Plus j'en parle avec Mohand et plus j'arrive à me convaincre qu'il a raison d'être optimiste. Je n'ai tué personne, mais ça aurait pu arriver et il faut que ça me serve de leçon. Tu vois, Mo, le pire dans tout ça, c'est que je me suis demandé si j'étais pas comme lui. Je n'ai pas besoin de préciser qui est celui à qui j'ai peur de ressembler. Il sait. Putain, Karel, personne n'est comme lui. C'est un psychopathe. Je veux plus qu'on m'appelle Karel. Pourquoi chez moi le rêve est évincé par une réalité glacée ? Peut-on dire que la mère est autant victime que bourreau ?
Bah, vous avez très bien cerné les choses. Ouais, c'est une super question parce que c'est un des personnages les plus problématiques, je pense, les plus ambivalents du récit. Elle est victime, clairement. Et elle est complice, et elle est bourreau à son tour, bien sûr, hein, puisqu'elle est. Finalement, elle ne défend pas ses enfants, donc elle est coupable. Et elle subit certainement l'emprise du père et la maltraitance du père. Mais pour moi, elle est tout aussi coupable que lui. Son statut de victime n'enlève rien à sa responsabilité. Elle aurait dû défendre les enfants, les soustraire à la maltraitance et à la violence du père. Mais c'est un des personnages que j'ai conçu un peu comme une espèce de sphinx, une espèce d'énigme. Je ne donne pas toutes les clés pour la comprendre.
Pourquoi est-ce que les seuls personnages positifs dans votre roman sont des gitans ?
Alors, oui, c'est vrai ça. Ce camp de gitans, je ne l'ai pas complètement inventé. Hein. Il a existé près de l'endroit où je vis actuellement. Hein. C'était une espèce de bidonville, de camp de gitans sédentarisé dans la ville où je vis aujourd'hui. Donc en banlieue parisienne, pas en banlieue marseillaise. Et j'ai des amis qui y ont grandi et qui m'en ont toujours parlé d'une façon très positive précisément. Comme d'un espace de liberté où il y avait une grande précarité, une grande pauvreté, mais aussi une grande solidarité et beaucoup de chaleur humaine. Donc du coup, bon, je pense que j'ai pas mal idéalisé, hein, ça devait être très dur en réalité, ce passage 50 ou 60, je ne sais plus comment je l'appelle dans mon roman. Mais à partir de ces souvenirs d'enfance tels que me les racontaient les amis en question, j'ai inventé ce camp, et je l'ai voulu effectivement comme une sorte d'échappatoire, d'espace de liberté et d'amitié, avec lui aussi ses ambivalences, hein, parce que Yolanda et Jacinto ne sont pas des personnages entièrement positif, mais que ce soit l'endroit où la fratrie va trouver un peu de... Enfin, une forme de... un espace de liberté.
Vous dites que l'avenir des enfants de Salo, pour reprendre le titre de Serge Chalandon, est déterminé et fragile et deviennent ou des idiots ou des démons. Est-ce qu'on a mal compris ce que vous voulez dire ?
Là, vous citez Serge Chalandon, pas moi. Alors... Bon, moi, vraiment, là encore, une des cohérences du récit, c'est la chanson d'Ayam, Née sous la même étoile, où il est question précisément de cette inégalité des chances au départ. Je ne suis pas sociologue et je ne suis pas théoricienne et je n'ai pas d'idée fixe sur la question. C'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. Je pense que le déterminisme social, malheureusement, est d'un poids énorme et que l'école, malgré tout le bien que j'en pense, ne joue pas toujours le rôle qu'elle devrait jouer pour amoindrir et niveler les inégalités. Et en même temps, on a tous autour de nous des gens qui témoignent du fait que, on peut être heureux après une enfance saccagée. Mais c'est clairement beaucoup plus difficile que quand on a été aimé, choyé et quand on a grandi sans inquiétude par rapport à sa subsistance matérielle. Donc j'ai pas de position ferme sur la question parce que je pense que c'est une question qui est difficile à trancher. Je pense que malheureusement, oui, ça joue énormément, bien sûr.
Karel est le personnage principal et il ne laisse pas tellement d'espoir. En tout cas, c'est ce que beaucoup de personnes ont ressenti.
Alors, tu as tout à fait raison. Tout à l'heure, j'ai rencontré une autre classe, en fait, dans un autre lycée, et où un ou une élève me disait très justement que on comprend au début du récit, ce que vous avez lu dans la vidéo, que Karel, il s'est lancé dans un travail psychanalytique, ou en tout cas, il a l'air de chercher à vouloir comprendre et à aller mieux. Donc je pense qu'il y a peut-être un espoir de ce côté-là, du côté du travail que l'adulte entreprend pour surmonter cette enfance atroce. Non, il n'y a pas beaucoup d'espoir, c'est un livre sombre. Après, je souscris complètement à ce que tu dis. Karel, il est en partie bousillé par son père. On peut espérer qu'il s'en sortira. À vrai dire, je n'ai pas tranché. On peut juste se dire que l'adulte qui raconte est dans un travail de réappropriation, de compréhension, d'élucidation pour aller mieux. Mais on peut pas dire plus.
Est-ce que vous pensez qu'on peut bien parler de ce qu'on ne connaît pas ?
Ah, c'est intéressant comme question. Non. Je pense qu'il faut quand même, connaître ce dont on parle, même si on peut très bien a priori se lancer. Enfin, je peux vous donner un autre exemple que ce livre-ci. Moi, j'ai écrit un roman sur le surf sans avoir jamais mis un pied sur une planche de surf. Et je maintiens qu'il est très crédible. Et des surfeurs me l'ont confirmé, mais parce que j'ai bossé. Et du coup, finalement, ça veut dire que sans avoir cette expérience directe, sensible du surf, j'avais interrogé des surfeurs, j'avais visionné des heures et des heures et des heures de vidéos de surf. Donc, je pouvais me targuer d'une forme de connaissance, même indirecte. Et tous les sujets que j'aborde dans mes livres, finalement, je les ai sinon connus directement. Du moins, voilà, je m'y suis intéressée, j'ai réfléchi, j'ai discuté avec des gens. Et donc, c'est aussi une forme de connaissance, quand bien même ce ne serait pas du vécu à 100% à chaque fois.
C'était la deuxième partie de la rencontre de mes élèves avec Rebecca Ligueri, alias Emmanuel Bayamak-Tam, dans le cadre du prix littéraire de la région.